Compréhension de l'oral, niveau avancé. Sujet numéro 1. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 1, document sonore, première écoute.
Alors ce matin, vous nous conseillez de séparer vie pro et vie perso.
Prenez soin de vous, cloisonnez. Arrêtez de vous prendre pour un super héros multitâche, de passer votre temps sur Facebook au travail et de finir vos comptes rendus chez vous le soir. Dans un hors-série consacré au bien-être au travail, Psychologie Positive décrypte les pièges de cette tendance à vouloir tout mélanger. Sophie Baird, la rédactrice en chef de ce magazine, identifie d'ailleurs 4 profils bien différents. Ils ont été définis par une étude finlandaise en 2015.
Les plus nombreux sont les intégrateurs, environ la moitié d'entre nous, qui ne séparent pas du tout leur vie pro et perso et qui, au bureau, vont appeler une babysitter pour leurs enfants le soir et à la maison, bien sûr, consulter leurs emails et répondre à leur patron. Ensuite, il y a le séparateur qui cloisonne extrêmement bien sa vie pro et sa vie perso, moins nombreux, un petit 20%. Et puis les deux extrêmes, les bourreaux de travail, qui sont quand même aussi environ 20%, qui sont tout le temps disponibles pour répondre à leurs emails et relire leurs rapports le soir et le week-end. Et puis 14% de personnes dont la vie perso a plus d'importance et qui même au boulot s'occupent de leur week-end, de leurs vacances et d'organiser la vie de leurs enfants.
Au total, donc, entre les intégrateurs et les bourreaux de travail, plus des 2/3 des actifs mélangent les deux sphères pro et perso, la photo portable et autres smartphones, la faute aussi à notre cerveau reptilien.
C'est notre cerveau reptilien, notre cerveau archaïque qui réagit dès qu'on entend une notification sur notre téléphone. En fait, autrefois, c'était utile parce que s'il y avait un lion qui se cachait derrière le buisson, il fallait absolument réagir. Et aujourd'hui, dès qu'on entend une notification, on a cette espèce de réflexe d'y répondre, alors qu'il y a généralement moins de danger. On peut attendre une heure avant de répondre à un email pro.
Voilà, donc quand vous ne travaillez pas, ordi et smartphone sur silencieux, ça s'appelle le droit à la déconnexion. C'est dans la loi. Hein. Et puis selon une étude canadienne, si vous ne regardez vos emails que 3 fois par jour, c'est déjà pas mal quand même, et bien votre niveau de stress va chuter en 2 semaines.
Mais arriver à tout faire en même temps, à tout mener de front, ça peut être gratifiant, ça peut être satisfaisant.
Satisfaisant mais pas productif du tout, à en croire Sophie Baird.
Effectivement, on a l'impression d'être très efficace, d'arriver à tout gérer, mais dans les faits, on fait les choses moins bien, on est moins précis, on a moins de résultats, surtout on est beaucoup plus fatigué. Quand on fait du multitâche, en fait, on a besoin d'environ 20 minutes de sommeil en plus par nuit, parce que tout simplement, on n'est pas fait pour ça, et ça peut conduire, pour ceux qui ne s'arrêtent jamais de travailler une fois qu'ils sont chez eux, ça peut conduire à un réel épuisement professionnel.
Voilà, donc non, votre cerveau n'est pas fait pour le multitâche, il a besoin d'un sas, d'un temps de récupération. Pas question pour autant de remettre en cause le télétravail, hein, qui a fait ses preuves, qui fait ses preuves. En revanche, pour éviter le piège du multitâche, eh bien, choisissez une seule pièce de la maison pour travailler et ce sera plus facile ensuite pour changer de rôle.
Alors pour tous ceux, Edwige, peut-être qui nous écoutent et qui ont du mal à décloisonner, comment on arrive concrètement à séparer sa vie pro de sa vie perso ?
Redéfinissez vos priorités. Demandez-vous quelle place vous accordez au travail, à votre famille, à vos amis, à vos loisirs, à votre santé et à votre bien-être. Sophie Baer appelle ça la cible des valeurs. C'est un exercice qui est développé par un psychologue suédois. La plupart du temps, c'est le travail qui prend toute la place. Donc, on le répète, ménagez-vous du temps pour vous et soyez à 100% dans ce que vous faites.
Ce qui nous rend le plus épanouis, le plus heureux, c'est d'être vraiment à ce qu'on fait. D'être 100% dans notre travail ou 100% dans notre vie perso. Et le piège du multitâche, c'est qu'en fait, on croit être là, mais on est en même temps ailleurs. Et donc, on n'est pas vraiment concentré sur le moment présent.
Sujet numéro 1, document sonore, deuxième écoute.
Alors ce matin, vous nous conseillez de séparer vie pro et vie perso.
Prenez soin de vous, cloisonnez. Arrêtez de vous prendre pour un super héros multitâche, de passer votre temps sur Facebook au travail et de finir vos comptes rendus chez vous le soir. Dans un hors-série consacré au bien-être au travail, Psychologie Positive décrypte les pièges de cette tendance à vouloir tout mélanger. Sophie Baer, la rédactrice en chef de ce magazine, identifie d'ailleurs 4 profils bien différents. Ils ont été définis par une étude finlandaise en 2015.
Les plus nombreux sont les intégrateurs, environ la moitié d'entre nous, qui ne séparent pas du tout leur vie pro et perso et qui, au bureau, vont appeler une babysitter pour leurs enfants le soir et à la maison, bien sûr, consulter leurs emails et répondre à leur patron. Ensuite, il y a le séparateur qui cloisonne extrêmement bien sa vie pro et sa vie perso, moins nombreux, un petit 20%. Et puis les deux extrêmes, les bourreaux de travail, qui sont quand même aussi environ 20%, qui sont tout le temps disponibles pour répondre à leurs emails et relire leurs rapports le soir et le week-end. Et puis 14% de personnes dont la vie perso a plus d'importance et qui même au boulot s'occupent de leur week-end, de leurs vacances et d'organiser la vie de leurs enfants.
Au total, donc, entre les intégrateurs et les bourreaux de travail, plus des 2/3 des actifs mélangent les deux sphères pro et perso, la photo portable et autres smartphones, la faute aussi à notre cerveau reptilien.
C'est notre cerveau reptilien, notre cerveau archaïque qui réagit dès qu'on entend une notification sur notre téléphone. En fait, autrefois, c'était utile parce que s'il y avait un lion qui se cachait derrière le buisson, il fallait absolument réagir. Et aujourd'hui, dès qu'on entend une notification, on a cette espèce de réflexe d'y répondre, alors qu'il y a généralement moins de danger. On peut attendre une heure avant de répondre à un email pro.
Voilà, donc quand vous ne travaillez pas, ordi et smartphone sur silencieux, ça s'appelle le droit à la déconnexion. C'est dans la loi. Hein. Et puis, selon une étude canadienne, si vous ne regardez vos emails que 3 fois par jour, c'est déjà pas mal quand même, eh bien votre niveau de stress va chuter en 2 semaines.
Mais arriver à tout faire en même temps, à tout mener de front, ça peut être gratifiant, ça peut être satisfaisant.
Satisfaisant, mais pas productif du tout, à en croire Sophie Baer.
Effectivement, on a l'impression d'être très efficace, d'arriver à tout gérer, Mais dans les faits, on fait les choses moins bien, on est moins précis, on a moins de résultats, surtout on est beaucoup plus fatigué. Quand on fait du multitâche, en fait, on a besoin d'environ 20 minutes de sommeil en plus par nuit, parce que tout simplement, on n'est pas fait pour ça. Et ça peut conduire, pour ceux qui ne s'arrêtent jamais de travailler une fois qu'ils sont chez eux, ça peut conduire à un réel épuisement professionnel.
Voilà, donc non, votre cerveau n'est pas fait pour le multitâche, il a besoin d'un sas, d'un temps de récupération. Pas question pour autant de remettre en cause le télétravail, hein, qui a fait ses preuves, qui fait ses preuves. En revanche, pour éviter le piège du multitâche, eh bien, choisissez une seule pièce de la maison pour travailler, et ce sera plus facile ensuite pour changer de rôle.
Alors pour tous ceux, Edwige, peut-être qui nous écoutent et qui ont du mal à décloisonner, comment on arrive concrètement à séparer sa vie pro de sa vie perso?
Redéfinissez vos priorités. Demandez-vous quelle place vous accordez au travail, à votre famille, à vos amis, à vos loisirs, à votre santé et à votre bien-être. Sophie Baer appelle ça la cible des valeurs. C'est un exercice qui est développé par un psychologue suédois. La plupart du temps, c'est le travail qui prend toute la place. Donc, on le répète, ménagez-vous du temps pour vous et soyez à 100% dans ce que vous faites.
Ce qui nous rend le plus épanouis, le plus heureux, c'est d'être vraiment à ce qu'on fait. D'être 100% dans notre travail ou 100% dans notre vie perso. Et le piège du multitâche, c'est qu'en fait, on croit être là, mais on est en même temps ailleurs. Et donc, on n'est pas vraiment concentré sur le moment présent.
Sujet numéro 2. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 2, document sonore, première écoute.
Bastien, j'insiste un peu, vous avez des petits yeux ce matin et on va comprendre pourquoi puisque vous nous présentez un dossier sur la restriction de sommeil.
Ouais, on va faire ça en deux chapitres. Le premier sous forme de question, est-ce qu'on peut dormir moins parce qu'on le choisit? Et le second, logiquement, sur les troubles liés au manque du sommeil.
Alors depuis lundi, on le sait, vous avez testé ça pour nous. Ça fait donc 3 jours que vous dormez quasiment plus. En fait, vous dormez 20 minutes toutes les 4 heures, de jour comme de nuit. C'est un système donc de régime de sommeil fragmenté. Comment est-ce que vous vous sentez ce matin alors?
Alors pour être honnête, j'ai abandonné hier soir, j'en pouvais plus. J'avais pas envie de repasser une troisième nuit comme ça. Donc voilà, je me sens bien ce matin, mais j'ai quand même fait 2 jours et demi avec au total 11 siestes de 20 minutes, soit 3h40 de sommeil. C'est pas énorme pour sur 60 heures. C'est ce qu'on appelle le régime de sommeil Huberman, donc un sommeil polyphasique en plusieurs phases. On dort très très peu, on vit beaucoup, 22 heures d'éveil sur 24. Et ça, c'est a priori un rêve, puisque ça permet de faire beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie.
Évidemment, mais c'est de la théorie. Et puis, qu'est-ce que ça donne en pratique?
Alors, c'est un petit peu moins glamour. En fait, pour être honnête, il faut séparer les moments du jour et les moments de nuit. J'ai très très bien vécu les journées. Je me suis trouvé en pleine forme, pas de signes dérangeants de fatigue. Les siestes toutes les 4 heures arrivent à point nommé. Et à chaque fois, m'ont redonné l'énergie nécessaire pour attendre la prochaine sieste. Donc ça, j'étais vraiment agréablement surpris par rapport à ça. J'imagine que la lumière du jour, le rythme circadien jour-nuit comme ça qui est bien établi, et l'activité sociale et puis le travail en
travaillant. Oui, on a tenté de vous stimuler, c'était pas
exactement
toujours facile, mais
mais ça aide, je pense, à passer un petit peu outre la fatigue.
Donc ça, c'est la journée. Maintenant la nuit, on n'est plus à côté de vous pour vous parler.
Et ça, c'est beaucoup plus dur. J'ai trouvé le temps vraiment long, évidemment, parce qu'à 3h du matin, il y a personne pour faire causette. Couplé au manque de lumière qui déclenche des envies terribles de dormir, ça c'est pas évident. Et là, j'attendais les siestes vraiment avec impatience. C'est un petit peu comme, j'ai ressenti la même chose que quand j'ai très très faim et puis qu'on me dit non, mais on va manger seulement dans 1 heure. C'est exactement la même sensation. Ça rend un peu irritable aussi, mes enfants l'ont remarqué.
Bon, alors, et comment est-ce que vous avez fait pour tenir le coup et pour ne pas vous endormir?
Alors là, il faut être actif. J'ai essayé un peu la télévision ou la radio, c'est absolument impossible. Je sentais le sommeil qui arrivait. Je suis donc retourné en enfance, j'ai joué au Lego.
Pas mal.
Lego technique, oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et c'était une excellente activité parce que c'était à la fois manuel et mental. Donc ça permet de garder une activité un petit peu plus forte. Donc j'ai un peu compris, ou en tout cas j'ai aucun doute sur le fait que ce sommeil polyphasique, c'est une excellente solution pour des gens qui en ont vraiment besoin, qui ont quelque chose à faire pendant leur phase d'éveil. Je pense à des navigateurs en solitaire ou les pilotes de Solar Impulse, on y reviendra. Par contre, si c'est juste pour profiter un petit peu plus de la vie, là je suis un peu plus dubitatif.
Sujet numéro 2, document sonore, deuxième écoute.
Bastien, j'insiste un peu, vous avez des petits yeux ce matin et on va comprendre pourquoi puisque vous nous présentez un dossier sur la restriction de sommeil.
Ouais, on va faire ça en deux chapitres. Le premier sous forme de question, est-ce qu'on peut dormir moins parce qu'on le choisit? Et le second, logiquement, sur les troubles liés au manque du sommeil.
Alors depuis lundi, on le sait, vous avez testé ça pour nous. Ça fait donc 3 jours que vous dormez quasiment plus. En fait, vous dormez 20 minutes toutes les 4 heures, de jour comme de nuit. C'est un système donc de régime de sommeil fragmenté. Comment est-ce que vous vous sentez ce matin alors?
Alors pour être honnête, j'ai abandonné hier soir, j'en pouvais plus. J'avais pas envie de repasser une troisième nuit comme ça. Donc voilà, je me sens bien ce matin, mais j'ai quand même fait 2 jours et demi avec au total 11 siestes de 20 minutes, soit 3h40 de sommeil. C'est pas énorme pour sur 60 heures. C'est ce qu'on appelle le régime de sommeil Huberman, donc un sommeil sommeil polyphasique en plusieurs phases. On dort très très peu, on vit beaucoup, 22 heures d'éveil sur 24. Et ça, c'est a priori un rêve, puisque ça permet de faire beaucoup beaucoup de choses dans sa vie.
Et évidemment, mais c'est de la théorie. Et puis, qu'est-ce que ça donne en pratique ?
Alors, c'est un petit peu moins glamour. En fait, pour être honnête, il faut séparer les moments du jour et les moments de nuit. J'ai très très bien vécu les journées. Je me suis trouvé en pleine forme, pas de signes dérangeants de fatigue. Les siestes toutes les 4 heures arrivent à point nommé. Et à chaque fois, m'ont redonné l'énergie nécessaire pour attendre la prochaine sieste. Donc ça, c'était, j'étais vraiment agréablement surpris par rapport à ça. J'imagine que la lumière du jour, le rythme circadien jour-nuit comme ça qui est bien établi, et l'activité sociale et puis le travail en travail.
Oui, on a tenté de vous stimuler, c'était pas toujours facile, mais
mais ça aide, je pense, à passer un petit peu outre la fatigue.
Donc ça, c'est la journée. Maintenant la nuit, on n'est plus à côté de vous pour vous parler.
Et ça, c'est beaucoup plus dur. J'ai trouvé le temps vraiment long, évidemment, parce qu'à 3 heures du matin, il y a personne pour faire causette. Couplé au manque de lumière qui déclenche des envies terribles de dormir, ça c'est pas évident. Et là, j'attendais les siestes vraiment avec impatience. C'est un petit peu comme, j'ai ressenti la même chose que quand j'ai très très faim et puis qu'on me dit non, mais on va manger seulement dans une heure. C'est exactement la même sensation. Ça rend un peu irritable aussi, mes enfants l'ont remarqué.
Bon, alors, et comment est-ce que vous avez fait pour tenir le coup et pour ne pas vous endormir ?
Alors là, il faut être actif. J'ai essayé un peu la télévision ou la radio, c'est absolument impossible. Je sentais le sommeil qui arrivait. Je suis donc retourné en enfance. J'ai joué au Lego.
Pas mal.
Lego technique, oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et c'était une excellente activité parce que c'était à la fois manuel et mental. Donc ça permet de garder une activité un petit peu plus forte. Donc j'ai un peu compris, ou en tout cas j'ai aucun doute sur le fait que ce sommeil polyphasique, c'est une excellente solution pour des gens qui en ont vraiment besoin, qui ont quelque chose à faire pendant leur phase d'éveil. Je pense à des navigateurs en solitaire ou les pilotes de Solar Impulse, on y reviendra. Par contre, si c'est juste pour profiter un petit peu plus de la vie, là je suis un peu plus dubitatif.
Sujet numéro 3. Vous avez une minute pour lire les titres. Vous allez écouter 3 documents sonores. Document numéro 1.
On parle ménage aujourd'hui.
Oui.
Ménage intelligent, car vous avez testé un aspirateur robot tout nouveau.
Oui, parce que les aspirateurs robots, c'est pas neuf comme concept, hein, mais il faut bien dire que jusqu'à présent, ce n'était pas parfait. Parce qu'un aspirateur robot, c'est petit, il faut tout le temps le nettoyer. Et puis en plus, ils sont assez bêtes. En fait, ils sont aveugles, les aspirateurs robots, ils savent pas où ils sont.
Ouais, ça, c'est un problème. Pour enlever la poussière, si on n'en voit pas, c'est compliqué.
Mais ils font ça complètement au pif, en se tapant dans les murs, en réalité. Mais là, j'ai testé un nouvel aspirateur. Alors, c'est la marque américaine iRobot, et celui-là, il sait où il est, Et il sait où il va, il répond en plus à la commande vocale et il se vide tout seul. Alors d'abord sur la partie navigation, c'est un peu comme une voiture autonome. En fait, il est équipé de caméras, de télémètres laser pour mesurer les distances avec les meubles. Et il est capable ainsi de cartographier votre logement.
Document numéro 2, deuxième écoute.
Alors la messagerie WhatsApp qui appartient à Facebook a décidé d'agir pour une fois contre les fake news, c'est ça ?
Oui, exactement. Alors WhatsApp, on rappelle très brièvement, donc cette appli qui permet de communiquer en audio, en vidéo et surtout en message texte, hein, type SMS, filiale de Facebook, vous l'avez dit, 1 milliard 500 millions d'utilisateurs dans le monde, ça fait beaucoup d'utilisateurs. Et depuis hier, on ne peut plus partager de contenu sur WhatsApp avec plus de 5 contacts, c'est-à-dire 5 personnes ou 5 groupes de personnes. On parle de la fonction qui s'appelle « faire suivre » et qui permet d'un simple clic de renvoyer un contenu que vous avez vous-même reçu sur WhatsApp. Donc, n'espérez
pas. Donc, de le répandre, en fait.
Exactement.
Au maximum.
Voilà.
Ouais. Donc, ça permet effectivement de lutter contre les fake news infox, comme on dit en français.
Oui, parce que ça va mécaniquement, en principe, limiter leur propagation.
Document numéro 3.
Mathieu, ce matin dans l'édito carré, le mythe de la voiture autonome.
Eh oui, car cela fait des années maintenant, Nicolas, qu'on nous fait miroiter que nous pourrions un jour grimper dans une voiture entièrement autonome et nous laisser conduire jusqu'à notre destination finale sans avoir posé une seule main sur le volant ni jeté un seul coup d'œil sur la route. Oui, sauf que cette voiture régulièrement présentée comme la solution aux problèmes de circulation et d'environnement semble avoir bien du mal à sortir des usines et pour cause. Pour de nombreux spécialistes, elle pourrait tout simplement ne jamais voir le jour.
Et qu'est-ce qui pose principalement problème,
alors la voiture réellement autonome dont tout le monde rêve, c'est celle de niveau 5. Ce niveau d'autonomie représente un énorme degré de contrainte et en matière de sécurité, les attentes de la part du public sont très élevées avec une tolérance proche de zéro concernant les blessures ou les morts causées par ces machines. L'image de ces voitures s'est d'ailleurs considérablement dégradée en novembre dernier lorsqu'un véhicule d'essai d'Uber a percuté et tué une femme qui traversait une rue de Phoenix dans l'Arizona.
Document numéro 1, deuxième écoute.
On parle ménage aujourd'hui,
oui.
Ménage intelligent, car vous avez testé un aspirateur robot tout nouveau.
Oui, parce que les aspirateurs robots, c'est pas neuf comme concept, hein, mais il faut bien dire que jusqu'à présent, ce n'était pas parfait, parce qu'un aspirateur robot, c'est petit, il faut tout le temps le nettoyer, et puis en plus, ils sont assez bêtes. En fait, ils sont aveugles, les aspirateurs robots, ils savent pas où ils sont.
Ouais, ça, c'est un problème. Pour enlever la poussière, si on n'en voit pas, c'est compliqué.
Mais ils font ça complètement au pif, en se tapant dans les murs, en réalité. Mais là, j'ai testé un nouvel aspirateur, alors c'est la marque américaine iRobot, et celui-là, il sait où il est, et il sait où il va, il répond en plus à la commande vocale et il se vide tout seul. Alors d'abord sur la partie navigation, c'est un peu comme une voiture autonome, en fait il est équipé de caméras, de télémètres laser pour mesurer les distances avec les meubles, et il est capable ainsi de cartographier votre logement.
Document numéro 2.
Alors la messagerie WhatsApp qui appartient à Facebook a décidé d'agir pour une fois contre les fake news, c'est ça ?
Oui, exactement. Alors WhatsApp, on rappelle très brièvement, donc cette appli qui permet de communiquer en audio, en vidéo et surtout en message texte, hein, type SMS, filiale de Facebook, vous l'avez dit, 1 milliard 500 millions d'utilisateurs dans le monde, ça fait beaucoup d'utilisateurs. Et depuis hier, on ne peut plus partager de contenu sur WhatsApp avec plus de 5 contacts, c'est-à-dire 5 personnes ou 5 groupes de personnes. On parle de la fonction qui s'appelle « faire suivre » et qui permet d'un simple clic de renvoyer un contenu que vous avez vous-même reçu sur WhatsApp. Donc, n'espérez pas.
Donc, de le répandre, en fait.
Exactement.
Au maximum.
Voilà.
Ouais. Donc, ça permet effectivement de lutter contre les fake news infox, comme on dit en français.
Oui, parce que ça va mécaniquement, en principe, limiter leur propagation.
Document numéro 3, deuxième écoute.
Mathieu, ce matin dans l'édito carré, le mythe de la voiture autonome.
Eh oui, car cela fait des années maintenant, Nicolas, qu'on nous fait miroiter que nous pourrions un jour grimper dans une voiture entièrement autonome et nous laisser conduire jusqu'à notre destination finale sans avoir posé une seule main sur le volant ni jeté un seul coup d'œil sur la route. Oui, sauf que cette voiture régulièrement présentée comme la solution aux problèmes de circulation et d'environnement semble avoir bien du mal à sortir des usines et pour cause. Pour de nombreux spécialistes, elle pourrait tout simplement ne jamais voir le jour.
Et qu'est-ce qui pose principalement problème alors?
Alors, la voiture réellement autonome dont tout le monde rêve, c'est celle de niveau 5. Ce niveau d'autonomie représente un énorme degré de contrainte et en matière de sécurité, les attentes de la part du public sont très élevées avec une tolérance proche de zéro concernant les blessures ou les morts causées par ces machines. L'image de ces voitures s'est d'ailleurs considérablement dégradée en novembre dernier lorsqu'un véhicule d'essai d'Uber a percuté et tué une femme qui traversait une rue de Phoenix dans l'Arizona.
Fin de l'examen de compréhension de l'oral.